VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du 11 octobre 2016. Au sommaire ce soir,
la chancelière allemande Angela Merkel poursuit sa tournée africaine aujourd'hui en Éthiopie.
Le ministre sud-africain des Finances est poursuivi par la justice de son pays pour fraude.
Au Nigeria, plusieurs juges accusés de corruption par le gouvernement Buhari ont été libérés.
Dossier Syrie, Vladimir Poutine annule sa visite en France où il devait aborder le sujet avec son homologue François Hollande.
Ici aux États-Unis, Donald Trump ne décolère pas contre ses pairs républicains qu'il accuse de torpiller sa campagne pour la présidentielle de novembre.
Et bien sûr, l'économie et les sports, juste après le journal.
Le premier ministre éthiopien, Haïlé Mariam Dessalegn, a affirmé aujourd'hui vouloir réformer le système électoral pour que l'opposition soit mieux représentée en réponse au mouvement de contestation qui secoue son pays. Une annonce qui intervient lors d'une visite de la chancelière allemande Angela Merkel. Jacques Aristide.
Madame Merkel, qui termine une tournée africaine de 3 jours, a décliné une invitation à s'exprimer devant le Parlement éthiopien pour, d'après l'AFP, ne pas donner l'impression de soutenir une chambre monolithique. Mais elle était aux côtés du chef du gouvernement éthiopien lors d'une conférence de presse conjointe à Addis Abeba. Pour la chancelière allemande, une démocratie dynamique a besoin d'une opposition et de médias libres. Les gens veulent exprimer leur point de vue, ils veulent avoir leur mot à dire, a déclaré Madame Merkel. Un appel qui semble avoir été entendu par le Premier ministre Dessalegn, qui a assuré que son gouvernement réformerait le système électoral pour que les voix de ceux qui ne sont pas représentés puissent aussi être entendues au Parlement. L'Éthiopie est en proie à un mouvement de contestation antigouvernementale sans précédent depuis 25 ans et selon des ONG, la répression a fait plus de 500 morts.
Une tentative d'attentat suicide a échoué à Tombouctou, au Mali. Le kamikaze aurait été tué la nuit passée. Des versions contradictoires circulent concernant les circonstances de son décès. Il aurait soit provoqué sa propre mort en activant la charge d'explosifs ou aurait été abattu par des casques bleus suédois avant d'exploser.
Burundi, le gouvernement suspend toute forme de collaboration avec le bureau du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Bujumbura l'accuse de complicité dans l'élaboration d'un rapport accablant le pouvoir. Il faut dire que hier déjà, Bujumbura déclarait persona non grata 3 experts des droits de l'homme de l'ONU qui avait accusé le gouvernement burundais de violations graves des droits de l'homme et mis en garde contre des possibles crimes contre l'humanité.
Vers une indemnisation de victimes de crimes de guerre en République démocratique du Congo, la Cour pénale internationale tient ce mardi et jeudi pour la première fois des audiences publiques sur d'éventuelles compensations. À cette occasion, les experts ont estimé que les anciens enfants soldats restent stigmatisés, éprouvent des sentiments suicidaires et vivent dans une peur constante.
Et en Guinée aussi, on parle d'indemniser les victimes des violences électorales de 2013. Les forces politiques se sont entendues au terme d'un dialogue national la nuit passée, date anniversaire de la réélection du président Alpha Condé. C'est ce qu'ont appris des participants à l'AFP.
Au Nigeria, le barreau des avocats confirme la libération des juges arrêtés ce week-end dans le cadre d'une enquête sur la corruption. Les précisions de Nani Talani.
Le président du barreau nigérian, Aboubakar Mahmoud, a fait savoir que les juges interpellés ont été libérés sous caution dimanche. Toutefois, il n'a pas précisé leur nombre. Une source au sein de l'Agence nigériane de sécurité nationale a indiqué que 7 magistrats sont concernés et qu'ils se sont présentés au siège de l'agence lundi. Il dit ignorer la date à laquelle ils seront inculpés, ajoutant que leurs dossiers ont été confiés au procureur général. Les juges mis en cause siègent à la Cour suprême nigériane, à la Cour d'appel et à la Haute Cour. L'Agence de sécurité nationale, qui les a interpellés ce week-end, dit avoir saisi 800 000 dollars pendant les perquisitions. La décision d'arrêter les juges a provoqué un tollé dans le pays. Les critiques accusent le président Muhammadu Buhari de mener une chasse aux sorcières sous couvert de la lutte contre la corruption, ce que réfute le porte-parole de la présidence.
En Afrique du Sud, le ministre des Finances dans la ligne de mire de la justice, il est poursuivi pour fraude, nous dit Eric Manirakiza.
Le procureur général Shaun Abrahams a annoncé aujourd'hui dans une conférence de presse l'ouverture de l'enquête contre le ministre des Finances, Pravin Gordhan. Il est accusé notamment de fraude avec 2 autres personnes, lorsqu'il dirigeait les services du fisc de 1999 à 2009. Monsieur Pravin aurait permis le départ à la retraite d'un de ses subordonnés dans des conditions frauduleuses. L'annonce de ses poursuites contre le ministre a aussitôt bouleversé des marchés financiers. Le rand, la monnaie sud-africaine, a immédiatement perdu plus de 3% de sa valeur face au dollar. M. Pravin jouit d'une grande confiance des milieux économiques du pays. Ceci lui a valu son retour à la tête des finances en décembre 2015, un poste qu'il avait occupé dès 2009 et perdu en 2014. Chantre de la lutte contre la corruption et souvent opposé au président Jacob Zuma, le ministre Pravin est visé par une autre enquête, mais qui n'a pas encore abouti à des poursuites.
Somalie, des centaines de soldats éthiopiens opérant dans le cadre de la force de l'Union africaine AMISOM se sont retirés d'El Ali. Cette ville a été immédiatement reprise par les militants islamistes Shebab.
Les enseignants de Guinée-Bissau ont entamé ce mardi une grève de 2 semaines pour réclamer le paiement de leur salaire bloqué par la crise politique qui secoue le pays. C'est ce que rapporte l'AFP, citant les syndicats des enseignants. Selon un responsable du gouvernement, les impayés de salaire, une des raisons de la grève, sont liés au retard dans le vote du budget par le Parlement, dont les travaux sont bloqués à cause de la crise politique.
Les Nations Unies, ou plutôt le gouvernement du Soudan du Sud, doit prendre des mesures concrètes pour permettre le déploiement de la force mandatée par les Nations Unies pour protéger ce pays meurtri par une guerre civile dévastatrice, a déclaré Ban Ki-moon au Conseil de sécurité de l'ONU. Dans une lettre au Conseil hier soir, le chef de l'ONU a expliqué que le gouvernement avait encore des réserves sur la composition de cette force de 4000 membres et sur les zones de déploiement. Les autorités sud-soudanaises ont affirmé qu'elles étaient prêtes à accepter cette nouvelle force, mais ces engagements doivent se traduire par des actions concrètes sur le terrain, a réclamé Ban Ki-moon.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, les tensions diplomatiques entre Paris et Moscou liées à la guerre en Syrie ont culminé aujourd'hui avec l'annulation par Vladimir Poutine d'une visite prévue de longue date à Paris en raison des conditions posées par la France. De son côté, nous dit Salwa Jafari, l'Élysée a fait savoir qu'une réunion de travail avec le président russe était possible sur la Syrie à l'exclusion de tout autre événement pour le président français.
Je considère que le dialogue est nécessaire avec la Turquie, avec la Russie, mais il doit être ferme et franc, sinon il n'a pas sa place. Sinon c'est un simulacre. Je suis donc prêt à tout moment à rencontrer le président Poutine. Mais si nous avons la possibilité de faire avancer la cause de la paix,
c'était le président Hollande réagissant à la décision de Vladimir Poutine d'annuler son déplacement. Ce désaccord s'est cristallisé quand la Russie a opposé son veto samedi soir aux Nations Unies à une résolution française appelant à la cessation des bombardements sur Alep et présentait un texte différent. La résolution défendue par l'Élysée appelle à la fin des raids du régime syrien et de son allié russe dans la deuxième ville de Syrie. La contre-proposition russe réclamait la cessation des hostilités mais sans évoquer ces bombardements qui ont fait des centaines de morts depuis le début de l'offensive contre Alep le 22 septembre.
A signalé aussi cette sortie aujourd'hui du ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson contre Moscou. Il a appelé à manifester devant l'ambassade de Russie à Londres pour protester contre le rôle de la Russie en Syrie.
Et la France continue d'aider Haïti en réponse au passage de l'ouragan Matthew la semaine dernière. 2 stations de production d'eau potable ont été livrées, dont le premier cargo français d'aide humanitaire qui a atterri ce matin à Port-au-Prince avec 69 tonnes de fret humanitaire, dont des médicaments et des kits contre le choléra. Les autorités haïtiennes choisiront les zones d'affectation de ces stations d'une capacité de production de 250 mètres cubes d'eau par jour. Matthew a fait plusieurs centaines de morts en Haïti.
En Afghanistan, la communauté chiite a été encore une fois la cible d'une attaque. Une fusillade a visé mardi soir à Kaboul des pèlerins rassemblés près d'une mosquée pour célébrer la fête de l'Ashura, l'une des plus importantes du calendrier chiite. Un porte-parole du ministère de l'Intérieur a précisé à l'AFP que 2 des 3 assaillants ont été tués, l'autre est en cavale. L'autorité n'a pas fait état de victime.
Présidentielle américaine, la campagne de Donald Trump au bord de l'implosion. Le candidat républicain a exprimé sa déception et sa colère ce mardi sur Twitter après l'annonce publique du président de la Chambre basse, Paul Ryan, qu'il ne battrait plus campagne pour Trump. Donald Trump a accusé ses pairs républicains de manquer de loyauté et de torpiller sa campagne. Le porte-étendard républicain est dans la tourmente depuis la publication vendredi d'une vidéo datant de 2005 où il tient des propos dégradants à l'égard des femmes. Nous y reviendrons en partie magazine.
En Turquie, le Parlement a entériné ce soir la décision du gouvernement de prolonger de 3 mois l'état d'urgence instauré depuis le putsch avorté du 15 juillet dernier. L'état d'urgence est prolongé pour 90 jours à partir du 19 octobre à 1h du matin, heure locale, selon le vote parlementaire. Ce vote est une formalité dans la mesure où l'AKP, le parti islamo-conservateur du président Recep Tayyip Erdogan, détient une confortable majorité au Parlement turc.
Le secrétaire à la sécurité publique de l'État de Rio, artisan de la pacification des favelas, a démissionné aujourd'hui alors que la violence augmente dans l'État en pleine crise financière.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, la Minute Éco avec John Lyndon.
Au Mali, les bureaux du producteur d'or Randgold ont été fermés à Bamako à cause d'un différend fiscal de plus de 200 millions de dollars. Le groupe sud-africain estime que les autorités maliennes ont la main trop lourde en matière d'impôts. En 2015, le bénéfice net de Randgold s'établit à 189 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 1,4 milliard de dollars. L'Égypte a lancé des appels d'offres pour son approvisionnement en pétrole après la suspension par le géant pétrolier saoudien Aramco de la livraison de 700 000 tonnes de produits pétroliers. L'Arabie saoudite avait passé un accord en avril avec l'Égypte pour la fourniture sur 5 ans de 700 000 tonnes de produits pétroliers par mois pour une valeur de plus de 20 milliards de dollars. De plus en plus d'éditeurs européens sont en colère contre Facebook et Google. Les mastodontes du web continuent de capturer une part toujours plus importante des revenus publicitaires numériques. Google et Facebook devraient s'arroger plus de la moitié des revenus de la publicité numérique en Grande-Bretagne cette année et jusqu'à 58% aux États-Unis.
Enchaîne sur les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Match qualificatif pour la Coupe du Monde 2018 ce mardi sur la planète football.
Oui, à suivre en Europe, le champion du monde allemand qui accueille l'Irlande du Nord, la Norvège face à Saint-Marin, la Slovénie contre l'Angleterre et l'Écosse qui se déplace en Slovaquie.
Les premiers résultats de la zone Asie.
La Chine qui chute en Ouzbékistan 2-0, une troisième défaite lors de ce troisième tour des qualifications pour le Mondial 2018. L'Irak balait la Thaïlande à la peine depuis le début du troisième tour des qualifications. L'Irak s'est offert une belle victoire. Les Irakiens se sont imposés 4-0 grâce à un quadruplé de Mohamed Abdulhaïm à la 7e, 25e, 87e et dans les arrêts de jeu. Le Japon freine l'Australie, match nul, un but partout pour le leader du groupe B lors de ses qualifications.
Et la nuit prochaine, le Chili, en plein doute, espère se relancer.
Le double vainqueur de la Copa América est en difficulté lors de ses éliminatoires, occupant la 7e place dans la zone Amérique du Sud. Après 9 journées sur 18, l'Uruguay, le Brésil, l'Équateur, la Colombie et l'Argentine se partagent les places qualificatives et celles du play-off.
Et tennis, master de Shanghai.
Le numéro 1 mondial Novak Djokovic, qui n'était plus apparu sur un court depuis sa défaite en finale de l'US Open, a réussi sa rentrée en se qualifiant pour les 8e de finale. Le Serbe a battu l'Italien Fabio Fognini, 50e joueur mondial. Le score, 6-3, 6-3. Quant au numéro 1 français, Gaël Monfils, il s'est qualifié pour les 8e de finale en battant le Sud-Africain Kevin Anderson. Le score, 7-6, 6-3.
Merci Nicolas.
Voilà pour l'espoir. N'oubliez pas que chaque lundi, nous avons Nicolas Pineau dans ce Sporama à 19h GMT.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Chérubin Gaby Dorsil et Morgane Guiriec en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, la Côte d'Ivoire.
L'Assemblée nationale ivoirienne a adopté le projet de constitution. Idriss Fall a joint le député Alphonse Soro.
Nous venons de clôturer la séance plénière sur 250 députés siégeants, 239 députés ont voté pour l'adoption de la Constitution. 8 députés ont voté contre et 2 députés se sont abstenus. Nous avons donc approuvé la Constitution de la Troisième République qui désormais ne sera plus un avant-projet de loi, mais d'un projet de Constitution qui sera soumis au vote de la population ivoirienne.
Est-ce qu'on a une idée quand est-ce que le référendum aura lieu?
Probablement dans les semaines qui suivent, puisque toutes les étapes institutionnelles ont été franchies, il ne reste plus qu'à poser la question au peuple souverain de Côte d'Ivoire pour que celui-ci se prononce sur la Constitution.
Voilà, c'était le député ivoirien Alphonse Soro au micro d'Idriss Fall.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, Lambert Mende, a confirmé l'arrestation du secrétaire général adjoint de l'UDPS, Bruno Tshibala. Il a été arrêté pour être interrogé pour son rôle dans les manifestations de septembre qui ont fait de nombreux morts. Le secrétaire général du parti d'Étienne Tshisekedi, Jean-Marc Kabonde, a promis des manifestations pour mercredi s'il n'était pas libéré aujourd'hui. Nathalie Barge a joint le chef de mission adjoint à la présidence de l'UDPS, Rubens Mikindo.
Bruno Tshibala n'est pas encore libéré, mais nous osons croire que dans les 48 heures ou 24 heures, il pourra être libéré parce que pour nous, c'est inacceptable parce que nous considérons d'ailleurs son arrestation comme étant une provocation et nous osons croire que le pouvoir de Kabila va comprendre qu'il y a nécessité vraiment de libérer M. Bruno Tshibala. Notre secrétaire général s'est déjà prononcé là-dessus. Dans le cas où 48 heures après, c'est-à-dire entre aujourd'hui et demain, il n'est pas libéré, bien, l'IDPS va mener toute une série d'actions pour arriver jusqu'à sa libération totale. Il y a beaucoup d'actions pacifiques que nous devons mener sur le terrain afin que nous puissions obtenir sa libération. Je vous dis tout de suite que nous sommes en train d'envisager même pourquoi pas tous les cadres du parti et même tous les membres du parti ici à Kinshasa que nous puissions aller vers le parquet général pour que nous soyons tous arrêtés parce que c'est inacceptable qu'on arrête quelqu'un arbitrairement comme ça alors que nous avions présenté une plainte et nous avons identifié déjà qui était à la base des troubles passés ici à Kinshasa du 19 novembre. On peut passer sous silence cette plainte et pour commencer à ramasser les gens un à un, nous estimons à un certain moment, autant nous emmener tous à la prison et peut-être ça pourra faire l'affaire du pouvoir en place.
Bruno Tshibala a été arrêté juste avant de prendre l'avion pour Bruxelles. Est-ce que vous pensez que cette arrestation était donc pour l'empêcher de quitter le territoire?
Oui, ben justement, parce que normalement Bruno Tshibala, il ne voulait pas voyager dans une mission officielle du parti politique parce qu'il devait aller pour les soins médicaux et ça nous a tous étonnés de voir qu'il a été arrêté. C'est pourquoi nous considérons cette arrestation comme étant une arrestation arbitraire. C'est pas sur base, c'est pas moi d'une liste, c'est parce que nous estimons que c'est de l'intimidation tout simplement à pouvoir faire pression sur l'UDPS et les partis de rassemblement et il a été tout simplement arrêté. Et je vous dis que nous n'attendons que le coup de sifflet du secrétaire général tel qu'il l'a dit d'une manière solennelle pour que nous puissions passer à des actions. Et évidemment, ça sera bien entendu des actions tout à fait pacifiques. Et je vous dis d'abord d'emblée, parmi les actions pacifiques, nous envisageons aller tous, si demain par exemple il n'est pas libéré, nous envisageons nous tous, cadres du parti, aller nous constituer comme prisonniers afin que le pouvoir puisse trouver ses forces.
Rubens Mikindo, président de l'UDPS Nord Kivu et chef de mission adjoint à la présidence du parti.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a appelé aujourd'hui, mardi, les gouvernements à taxer les boissons sucrées. Une mesure qui viserait à combattre l'obésité dans le monde, où un adulte sur trois est en surpoids. Pour l'OMS, cette taxation va conduire à une réduction de la consommation de ces produits. Alors pour plus d'explications, Claire Morin-Gibourg a joint le directeur du département nutrition à l'OMS, Francesco Branca.
Donc aujourd'hui, c'est la journée mondiale pour l'obésité. Ça, c'est un problème très important. Et maintenant, on a plus de 600 millions d'adultes qui ont l'obésité. On a 42 millions d'enfants sous de 5 ans. Il y a beaucoup de problèmes de diabète. Plus de 400 millions de personnes qui ont le diabète. C'est la mauvaise diète. C'est la première cause de mortalité pour de maladies transmissibles.
Est-ce que c'est le cas également en Afrique?
Bon, la consommation de boissons sucrées plus élevées, maintenant, c'est à l'Amérique du Sud et à l'Amérique du Nord. Mais en Afrique, on a vu qu'il y a une croissance très rapide. Dans l'Afrique du Nord particulièrement, la consommation, c'est plus haut que dans la moyenne globale. Dans l'Afrique du Sud, donc l'Afrique au sud des Sahara, c'est plus bas que la moyenne mondiale, mais il croît très rapidement. Et ça, c'est un problème parce qu'on a des systèmes de production, de consommation des aliments qui changent très rapidement, en particulier des environs urbains. Et les enfants, ils consomment très facilement des boissons sucrées. Et la distribution très capillaire, même dans de petits pays en Afrique. Donc, il faut faire quelque chose tout de suite avant que dans l'Afrique, on sera dans la même situation que dans l'Amérique latine, du Sud. Les problèmes de l'obésité sont là aussi. Les problèmes de diabète sont aussi présents dans l'Afrique. Donc, il faut faire quelque chose pour éviter de se trouver dans des situations critiques de santé publique comme dans l'Amérique du Nord. En Afrique, on a un grand problème de double fardeau de la malnutrition. Donc, on a en même temps la malnutrition traditionnelle. Donc, on n'a pas beaucoup de poids, on n'a pas suffisamment d'énergie, de micronutriments. En même temps, on a un problème de l'obésité. Donc, vous êtes dans un pays comme l'Afrique du Sud, par exemple, on a 40% de femmes qui sont obèses et on a presque 15% de femmes qui ont des problèmes de malnutrition. Mais il faut faire quelque chose pour résoudre les deux types de problèmes en même temps.
C'était Francesco Branca, directeur du département nutrition de l'Organisation mondiale de la santé.
Présidentielle américaine 2016. Le parti républicain en ébullition à 4 semaines du scrutin. Le porte-étendard du parti, Donald J. Trump, s'insurge contre le président de la Chambre des députés, Paul Ryan, qui a dit qu'il ne battrait pas campagne pour lui. Timothée Donangmaï, de quoi s'agit-il?
Alors, Gabi, lors d'une conférence téléphonique lundi, Paul Ryan a informé les législateurs républicains qu'il se concentrera désormais sur les efforts visant à maintenir la majorité républicaine à la Chambre. Pas question de battre campagne pour le candidat républicain Donald Trump, a-t-il fait savoir. Une décision qui a suscité le courroux de l'intéressé. Dans un premier message ce mardi sur Twitter, Trump a dit que sa campagne pour la Maison-Blanche est rendue difficile par le manque de soutien du président républicain de la Chambre des représentants. Dans un autre message, toujours sur Twitter, il a qualifié Ryan de « très faible et inefficace ». Selon le candidat républicain à la Maison-Blanche, Paul Ryan a eu une mauvaise conférence téléphonique avec ses membres qui se sont déchaînés contre sa duplicité. Certains républicains n'ont pas apprécié le revirement du président de la Chambre des représentants qui, faut-il le préciser, Gabi, n'a pas pour autant retiré son soutien à la candidature de Donald Trump, preuve de la complexité de cette équation que les républicains doivent résoudre en cette année électorale.
Définitivement, Timothée Donangmaï, ce n'est pas facile pour les républicains, et surtout pour Paul Ryan. Au départ, il n'était pas tout à fait dans le camp de M. Trump. Il a dit une fois qu'il ne se sentait pas capable en l'état de soutenir sa candidature. Il l'a fait finalement. Et Trump a choisi Mike Pence, un conservateur, quelqu'un que tout le parti, surtout la frange conservatrice, pouvait accepter. Ensuite, c'était Trump qui ne pouvait pas soutenir la candidature de Paul Ryan pour sa réélection. Et maintenant, c'est le revers de la médaille. C'est difficile pour le parti. C'est presque la guerre civile, pourrait-on dire.
C'est ce que certains analystes disent et soulignent, que c'est une situation qui n'est pas de nature à faciliter les choses aux républicains en cette campagne électorale, surtout qu'on a la course à la Maison-Blanche, mais aussi les courses dans les États pour les législateurs, les députés, les sénateurs qui doivent briguer leur poste à nouveau.
Et la sortie de Paul Ryan contre Donald Trump aggrave les fissures qu'on a observées ces derniers temps au sein du Parti républicain.
Le malaise était déjà perceptible, Gabi, dès l'annonce de la candidature de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et selon Associated Press, les leaders républicains avaient espéré préserver l'unité du parti, tout au moins jusqu'aux élections de novembre. Un espoir déçu dans la mesure où, ces récents jours, Gabi, 40 républicains du Sénat et du Congrès ont retiré leur soutien à Donald Trump. Ceux des républicains menant campagne pour leur propre réélection redoutent que les propos dégradants de Donald Trump au sujet des femmes dans une vidéo datant de 2005 ne finissent par leur coûter leur siège en novembre. Ils devront cependant compter avec Donald Trump, qui se dit maintenant libre de toute contrainte dans sa lutte pour accéder à la Maison-Blanche. Dans le camp démocrate, la candidate Hillary Clinton a elle aussi quelques soucis, notamment une controverse déclenchée par la publication par Wikileaks d'emails portant sur les relations d'affaires de son mari, l'ancien président Bill Clinton, et ses propres ambitions présidentielles. Ces emails ont été piratés du compte de John Podesta, le président de l'équipe de campagne de Mme Clinton. Par ailleurs, Gabi, l'équipe de Trump a lancé un nouveau spot télévisé s'interrogeant sur l'état de santé de Mme Clinton après le malaise dont elle a été victime lors de la commémoration des attentats du 11 septembre.
Quel en sera l'effet? Est-ce que ce n'est pas trop tard? On ne sait pas, parce qu'il ne faut pas l'oublier, comme vous l'avez dit, Thibaut Edouard-Ngomaï, le scrutin, c'est le 8 novembre, c'est dans quelques semaines.
Et Gabi, comme on aime le dire ici aux États-Unis, on n'est jamais à l'abri d'une surprise d'octobre.
Merci Timothée Donangmaï.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Fin de cette édition. Lionel Gaïma a dirigé la mise en onde avec l'assistance de Mark Ferguson à la console. Aux présentations, Morgane Guiriec et chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Bien sûr, on maintient la conversation sur Facebook. Partagez vos questions, vos commentaires, posez et toutes sortes de questions, nous essaierons d'y répondre. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. VOA